Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Quand on dit d'une chose qu'elle est profonde, on pense soit qu'elle est trouble noire ou soit, et au contraire, qu'elle recèle un mystère, voire même une lumière. Descente ou approfondissement, c'est le dilemme de la considération de soi face auquel nous sommes confrontés avec les souffrances causées par la pandémie. C'est aussi la dernière question posée par Saint-Bernard de Clairvaux au XIIe siècle. J'en parle avec Jean-Marc Barrault, chroniqueur et professeur adjoint à l'Institut des études religieuses de l'Université de Montréal. Bonjour Jean-Claude. Jean-Marc. Allô Jean-Marc? Jean-Marc Barrault, êtes-vous là? Êtes-vous là? Esprit, es-tu là? Ah, on a quelques difficultés. On va tenter de le rejoindre d'une façon ou d'une autre. Mais entre-temps, bah écoutez, on va vous parler de quelques livres. Qu'aurais-je à vous annoncer? Il y a certainement Un pèlerin russe au 21e siècle, j'en avais déjà parlé. Il y a Prier 15... Ah oui, tiens, un très beau livre sorti chez Novalis. Nouvelle Cité qui est distribuée par Novalis, c'est Saint-Césaire d'Arles au 5e et 6e siècle, qui est un personnage à la fois connu et inconnu, ou plutôt méconnu. Il correspond bien à une figure typique d'évêque de la fin de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge, comme Saint-Martin de Tours, un des grands évangélisateurs de la France. C'est un moine devenu évêque, conservant dans sa charge épiscopale un style de vie monastique et qui s'efforce d'œuvrer à l'annonce de l'Évangile aux quatre coins de son territoire, attaché à une profonde conversion des mœurs et de son clergé, et confronté à des erreurs doctrinales. Donc c'est Prier 15 jours avec Saint-Césaire d'Arles. C'est par Antoine Barlier, c'est sorti à la toute fin de l'année dernière, 128 pages aux éditions Nouvelle Cité, ça coûte $24 à peu près, qu'on peut commander chez Novalis, on n'a qu'à taper novalis.ca. Saint-Césaire d'Arles, ce sont donc, on a une image un peu datée de Saint-Césaire, mais pourtant les circonstances de son épiscopat et sa manière de l'exercer peuvent inspirer notre prière et notre mission contemporaine au service de l'Évangile. Donc avec Saint-Césaire d'Arles, Prier 15 jours par Antoine Barlier, Barlier, publié chez Nouvelle Cité au prix de $24, disponible chez Novalis. Un autre très 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 beau livre, c'est de Régis Burnet, qui est très connu sur Cato TV. Il anime beaucoup d'émissions, fort bien du reste. Peindre la Bible. Peindre la Bible, paru chez Novalis cette fois-ci. Quand les peintres interprètent les textes sacrés de la Bible. Là, évidemment, comme il y a des jolis tableaux, c'est un peu plus cher, c'est $55 chez Novalis. 296 pages, alors très illustré, très, très, c'est un beau livre à avoir, c'est un beau livre à offrir en cadeau à des croyants, même à des non-croyants qui aiment la peinture, l'esthétique. Donc un livre richement illustré qui présente les diverses interprétations qu'ont suscité les œuvres les plus influentes s'inspirant de la Bible. Donc il y a beaucoup de reproductions de tableaux de maîtres, il y a leurs détails les plus significatifs parce que non seulement on montre le tableau général, mais après ce qui est intéressant pour l'œil, c'est de voir les détails, certains détails essentiels de tel ou tel ou tel tableau. L'impression générale, c'est la première, c'est ce qu'il faut avoir au début, et ensuite, quand on veut, c'est comme un plat cuisiné, on veut en connaître les ingrédients, la façon de le cuisiner, la façon de le préparer, etc., de le chauffer. Donc il y a beaucoup de reproductions de tableaux, de maîtres et leurs détails, accompagnés d'un texte clair et pédagogique, parce que Régis Burnet, l'auteur de ce livre, Peindre la Bible, paru chez Novalis. C'est un livre qui permet donc de comprendre comment l'art s'est emparé du motif religieux et ça permet de voir comment la compréhension de l'écriture grandit avec ses lecteurs. Donc on parle d'un livre de collection de premier ordre, un très beau cadeau pour les croyants, les non-croyants aussi, et les non-croyants qui peuvent être amateurs d'art comme n'importe qui d'autre. Alors voilà, Peindre la Bible, 296 pages au prix de $55 chez Novalis. Là aussi c'est sorti en novembre 2020. Alors, on vous ramène à Saint-Bernard de Clairvaux, grand saint du XIIe siècle, un grand maître de l'abbaye de Citeaux, des Cisterciens, et qui a laissé un testament spirituel et politique qui s'appelle « De la considération, quel rapport avec la pandémie actuelle ?» Jean-Marc Barrault nous en parle, chroniqueur et professeur adjoint à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Jean-Marc, on vous retrouve.
Je suis là, Jean-Philippe.
Merveilleux, voilà. Merveilleux. Oui, alors... On parle de pandémie, on parle de santé mentale, on parle de détresse, on parle de Évidemment, la population résiste parce qu'on n'a pas le choix, sauf qu'il y a quand même un prix intérieur à payer, non ?
Oui, oui, c'est pour ça que le lien, même si il peut paraître ténu, et je pense c'est très réel, et malgré les différences de siècle entre Saint-Bernard et nous, oui. Son ouvrage De la considération est une question extrêmement actuelle. En fait, qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui considérer, eu égard au fait qu'en en fait, on ne sait pas quand est-ce que la pandémie se terminera, et puis aussi parce qu'il y a une sorte de délitement pour certaines personnes de ce qu'ils vivent, de leurs considérations personnelles. Donc c'est la grande question que je voulais aborder avec vous, c'est comment se considérer positivement dans un tel contexte qui demande beaucoup d'endurance, on va dire.
Oui, évidemment, parce que c'est une course au long cours, évidemment. Le mot considération, qui est un peu le pivot de votre réflexion d'aujourd'hui, Jean-Marc Barrault, c'est le titre de la considération, je le disais en introduction, c'est le titre de son dernier écrit ?
Oui, tout à fait. On peut dire que c'est un peu son œuvre de maturité, si vous voulez. Bernard de Clairvaux était quelqu'un d'assez ascétique. Alors là aussi, on peut faire un parallèle parce que nos vies avec le confinement sont, en tout cas pour moi, mais je pense pour beaucoup, assez ascétiques. Il était donc de ce fait quelqu'un qui nous renvoyait à l'intériorité. Et c'est ça sa thèse, c'est de dire en fait que pour apprendre à se considérer au-delà de ce qui se fait à l'extérieur, il faut ce chemin intérieur. Alors, c'est un moine, hein. Il a été abbé de Clairvaux, vous l'avez dit, donc c'est toute son œuvre, mais c'est aussi toute sa vie qui nous transmet à travers cet écrit.
Si je schématise un peu ce à quoi vous faites allusion, Jean-Marc Barrault, et dites-moi si je dévie votre propos ou non, quand on est dans un état de... Prenons des restrictions sanitaires et allons à l'extrême. Je suis dans une cellule, il y a quatre murs de béton, un plafond de béton, je ne peux pas... Le seul endroit où je peux, comment vous dire, je ne peux même pas creuser un trou en bas pour aller fuir, parce que là aussi c'est du béton, je ne peux que... La vie ne peut qu'avancer dans l'intériorité, c'est le seul chemin possible.
Alors en fait, oui et non. C'est-à-dire, le conditionnement dans lequel on est, tel une prison, peut nous inviter à faire ce chemin d'intériorité, mais ça ne se fera que s'il y a un choix personnel, ce choix étant éclairé. C'est vraiment toute la démarche monastique de Bernard de Clairvaux, dans laquelle il distingue approfondissement de l'aspect de la descente. C'est-à-dire, descendre en soi pourrait avoir un petit peu une connotation psychologique, où en fait, puisque je ne peux pas aller à l'extérieur, je ne peux pas réussir professionnellement parce que tout est gelé, eh bien, je vais descendre en moi et on verra ce qui se passe. Ce n'est pas du tout ça. Pour lui, c'est vraiment une descente dans laquelle on qualifie la personne. Et c'est donc un approfondissement.
Attendez, pardonnez-moi, c'est une descente dans laquelle on qualifie la personne, je ne comprends pas votre explication.
Parce que la descente, en fait, si elle est psychologique en disant, bah, écoute, puisque je ne peux plus sortir, je vais m'occuper de moi, je vais descendre en moi, traiter des choses que je n'ai pas, éventuellement, que je n'ai pas traitées auparavant, ce n'est pas forcément constructif.
Ben, ça peut être un point de départ, ça peut être un point de départ quand même.
Ça peut être un point de départ, tout à fait. Surtout que lui est très proche peut-être qu'on en parlera si on a le temps, de l'humilité. Donc ça peut être une prise de conscience humble de la nécessité de s'appréhender autrement, de se considérer autrement. Et pour lui, c'est plus, c'est la thèse ou le principe quasi métaphysique de dire que si je descends spirituellement en moi, je qualifie ma personne, j'approfondis ma personne. Et donc c'est pas physique comme le fait de descendre des escaliers, si vous voulez, ou de descendre anatomiquement notre personne, c'est vraiment une démarche spirituelle qui s'opère et qui fait que je vais apprendre à me considérer autrement que ce que je pourrais voir en moi si je m'arrêtais à tel ou tel défaut, à tel ou tel échec, par exemple.
Concrètement, je reviens à la psychologie dont vous parliez auparavant, qui n'est pas votre modèle, évidemment, Jean-Marc Barrault, mais là, c'est que, bon, faute de mieux, je suis enfermé, je ne peux rien faire, donc la vie va continuer dans l'introspection, dans la croissance personnelle, je vais explorer mon être intérieur, mon être intime. C'est pas ça, on parle d'un approfondissement spirituel, mais est-ce que l'attitude est la même? Concrètement, comment vous dire, Jean-Marc? Je suis moi-même dans un cachot. Quelle est l'attitude à avoir pour suivre ce dont vous parlez, donc de Saint-Bernard de Clairvaux, qui est la considération, qui est ce regard approfondissant et spirituel dans lequel j'apparais sous une autre lumière? Quelles sont les conditions nécessaires à faire, à part les conditions matérielles extérieures à moi? Intérieurement, qu'est-ce que je dois faire?
Pour Bernard de Clairvaux, c'est clair que c'est une expérience de foi,
oui.
Qu'il appelle en fait l'expérience de l'incommensurable.
Oui.
Donc en fait, c'est ça qui est fort, et c'est bon, c'est proche de la vie monastique, mais c'est que, en fait, pour lui, l'expérience de foi, c'est l'expérience de quelque chose qui est extérieur à lui, mais qui est intérieur à lui en même temps, puisque le Christ... il est extérieur, mais par le mystère de la grâce, il est intérieur. Il est plus présent à moi que je ne le suis à moi-même.
Oui.
Donc, ce qui est assez bouleversant, si vous voulez, comme réalité. Donc oui. Ça, pour lui, c'est le déclic et l'expérience de foi. Ceci dit, vous avez les philosophes, peut-être qu'on aura le temps de faire allusion à Jean Wall, mais de manière plus moderne, il y a Corinne Pelluchon qui reprennent ça de manière philosophique, et qui disent, en fait, cet approfondissement de ma personne pour me reconsidérer de manière positive, je peux le faire en dehors de la foi, si je ne suis pas chrétien,
oui.
Ou si je suis par exemple agnostique, et cette réalité de l'incommensurable peut être vécue de manière très humaine. Si je prends Lévinas, ça peut être en croisant le visage de quelqu'un.
Si vous prenez qui, vous dites ? Si vous prenez qui ?
Lévinas.
Emmanuel Lévinas ?
Voilà, tout à fait, qui le philosophe du visage. Voilà. Donc ça peut être la rencontre avec quelqu'un d'autre, ça peut être l'incommensurable, ça peut être la rencontre avec le paysage, c'est l'hiver merveilleux au Québec, peu importe. Donc ça peut être regardé d'un point de vue de foi, comme d'un point de vue philosophique, mais c'est un déclic qui permet non pas de descendre en soi, mais d'approfondir ce que nous sommes, parce que nous sommes dans un rapport à quelque chose qui nous dépasse totalement et qui en même temps est en nous.
Si je vous comprends bien, Jean-Marc Barrault, parce que la distinction est assez fine, mais c'est-à-dire que si je descends en moi, c'est pas seulement moi qui creuse le trou pour voir, c'est que c'est pour aller rencontrer un autre en moi-même qui est immense, qui est aimant, qu'on appellera le Christ quand on est croyant, et qui peut être l'immensité quand on est un croyant ou philosophe. La question n'est pas juste de moi-même, je fais tout le travail, c'est que je fais une partie du travail, mais parce que je suis aimanté par quelqu'un qui gît au fond de moi-même.
Oui, j'aime bien qui gît, c'est vraiment cela. Et c'est vrai que, en fait, en théologie de la grâce, en théologie systématique, quand on réfléchit à la grâce, on voit bien, et Thomas d'Aquin, pour le coup, était un maître en la matière, que la grâce nous précède. Donc, en fait, dans le mystère le plus intime de l'âme, il y a une présence. Donc je ne vais pas descendre, mais je veux en fait approfondir ce que je suis parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Et ça, c'est pour ça qu'il y a un regard différent de la psychologie. Tout à l'heure, vous faisiez le parallèle suite à mon intervention, mais j'ai rien contre la psychologie, mais je montre juste que là, il y a quelque chose de plus parce que je vais apprendre à me regarder dans cet approfondissement, dans cette considération personnel avec le regard d'un autre, si c'est la grâce, et puis si c'est en philosophie, avec la mémoire de cette expérience de l'incommensurable qui peut être le visage de quelqu'un qui m'aime, ou la nature qui est quand même resplendissante.
Jean-Marc Barrault, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense à l'étymologie de considérer. On pense que considérer, ça veut dire examiner, observer, conclure, faire un discours sur telle ou telle chose. En fait, il paraît que l'étymologie serait cum si douce, avec si douce qui donne au génitif sidéris. qui a donné sidéral, intersidéral, sidérant, sidération, etc. Ça veut dire littéralement avec les étoiles. Quand vous parlez de l'immensité que l'on porte en soi, quand vous parlez du Christ qui nous attend au fin fond de soi-même, bah, entre le Christ et les étoiles, on est dans le même ordre d'idées de l'incommensurable, de l'immensité, que ce soit de l'amour ou de la physique.
Oui, et puis c'est bouleversant, ne serait-ce qu'au niveau philosophique, voire anthropologique, c'est bouleversant de considérer ce que vous venez de dire, parce que on est en train de dire en fait que l'être humain peut vraiment se considérer profondément, se reconsidérer, se reconstruire profondément en période de pandémie, que s'il a cette capacité à sortir de lui et à recevoir autre que lui, parce que dans les deux cas, que ce soit en philosophie ou que ce soit d'un point de vue chrétien, il y a une sortie de soi. Et Bernard de Clairvaux, et puis Wall le reprend, il parle de transascendance et transdescendance. Donc il y a vraiment cette dimension en fait de sortir de soi, c'est la transascendance, pour en fait ensuite transdescendre en soi, pour descendre en soi. Ouais. Et ça, c'est, je crois, la grosse différence d'une descente qui pourrait être triste ou nette.
Jean-Marc Barraud, vous parlez de Jean Val, W-A-H-L. Ça, c'est... Bon, Saint-Bernard de Clairvaux, c'est le 12e siècle. Jean Val, c'est le 20e siècle. C'est un philosophe... C'est pas lui qui avait influencé Emmanuel Lévinas ou Jean-Paul Sartre aussi?
Oui, tout à fait. Non seulement il a influencé Sartre et Lévinas, oui. C'est 1936-1967, il était prof à la Sorbonne.
Oui, oui.
Il est très curieux, cet auteur, j'aime beaucoup. En fait, il est disciple de Platon et de Descartes, et en même temps, toute son œuvre, tout en restant fidèle à Platon et Descartes, il va dénoncer les concepts et essayer de revenir au réel. C'est pour ça qu'il s'approprie Bernard de Clairvaux. C'est que Bernard de Clairvaux, il veut nous dire que pour se considérer, il ne faut pas fuir le réel, quel qu'il soit. Et c'est dans la considération de ce qui est, et qu'être nous, ici et maintenant, qu'on va réussir en fait à réapprivoiser notre être profond. Et c'est ça le pont qu'il y a avec Wall, en effet.
Et Jean-Marc Barraud, il nous reste 3 minutes, même pas. Vous avez parlé de la vertu d'humilité. Il serait peut-être temps d'en parler avant de finir. Quel rapport avec la considération de soi, l'humilité?
C'est une vertu, l'humilité. Hein. C'est une vertu. Oui. Elle ne s'acquiert, en tout cas dans la tradition de Bernard de Clairvaux, qu'à partir du moment où je considère qu'il y a plus grand que moi. Hein? C'est la considération qu'il y a plus grand que moi, par lequel, ce plus grand que moi, je me considère humblement. Mais pas une humilité qui va me déconstruire, qui va m'abîmer, une humilité qui va faire que je me reconnais tel que je suis,
à
ma place, mais dans une belle considération, parce que ça me situe dans ce qui est plus grand que moi, que ce soit la nature, que ce soit Dieu, et ça me met dans une relation, dans une communication qui va enrichir chacune des personnes, voire chacune des entités.
Alors, je me mets à la place de l'auditeur qui, lui, va essayer de mettre en pratique ce que vous dites, Jean-Marc Barraud. Il y a toujours l'écueil du moi. Je veux approfondir l'expérience de l'être en moi-même. J'ai lu Saint-Bernard de Clairvaux, j'ai lu Lévinas, enfin j'ai lu tous les auteurs que vous avez cités aujourd'hui, mais je demeure toujours au niveau du concept, au niveau de « je veux ». Alors je vais mettre en pratique une politique de l'approfondissement, comprenez-vous? C'est bien beau l'humilité, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste se laisser tomber? Il faut se laisser approfondir?
Voilà, il ne faut pas se laisser tomber. Moi j'habite au 20e étage, ça peut faire mal, mais il faut se laisser approfondir, en effet. Parce qu'en fait, c'est très important ce que vous dites, c'est que le passage du moi au soi ne peut se faire que parce que dans le soi, il y a quelqu'un. Alors, vous l'avez dit auparavant, si on est chrétien, c'est la grâce, donc le Christ, qui porte mon être. Si je le regarde d'un point de vue philosophique, comme fait Pélichon, comme fait Wall et d'autres philosophes, ça va être le fait que je suis une créature. Et donc, je suis, comme dira Thomas d'Aquin, un être participé. Et donc, il y a plus que mon moi. Je suis en fait, on dira créé à l'image de Dieu si on est en théologie naturelle, mais vous voyez, il y a cette réalité-là qui fait que je vais pouvoir lâcher prise et me reconsidérer autrement parce que je suis plus beau que ce que mon moi me révèle à cet instant.
On va terminer là-dessus, Jean-Marc Barrault, chroniqueur et professeur adjoint à l'Institut des études religieuses de l'Université de Montréal. On va suggérer aux auditeurs de lire de la considération de Saint Bernard de Clairvaux, son testament politique et spirituel. Et vous, on vous retrouve dans 2 semaines?
Avec plaisir et je vous souhaite une belle semaine.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, on parle d'économie et d'électricité vers des exportations d'électricité québécoise aux États-Unis. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci, je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.